Je ne lis jamais les feuilles de chou. RF Torv, je ne lis jamais de feuilles de chou.
Des feuilles de chou, vous appelez ça des feuilles de chou?
La sœur, elle est venue au Marocain, quand j'étais là-bas en Amérique.
Et alors? Je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas m'impressionner. Je ne lis jamais les feuilles de chou, ni en hébreu, ni en français. Des feuilles de chou, qu'est-ce que c'est de, c'est des feuilles de chou. Je ne lis que des livres sérieux. Et rien n'est sérieux. C'est gentil, hein, quand c'est pour le grand public. Pour les gens qui ne veulent pas faire la sieste Shabbat. Quelle chance on a. Eli. Ah ouais, c'est pour les Rakvarim Kashim. Zé le Fakhot. Allez, si vous êtes venu faire la causette, où est-ce que vous allez pour étudier? Non, c'est pas les deux. C'est, on vient pour étudier, pas pour faire la causette. Vous avez le temps de faire la causette jusqu'à maintenant. Mais on a commencé le cours. Allez, on va faire une petite halakha, tchik-tchak. De comment on appelle ça, de la shonara. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence si on dit la shonara devant une personne ou si on dit la shonara devant beaucoup de monde? Alors, il dit. Alors il dit que Chol Shemitrabi Mashomim, plus il y a des gens qui écoutent, Mitrabi Avonam Saper, la faute du celui qui raconte est plus grande. Pourquoi? Parce que une des raisons de l'interdiction du Lashon Hara, c'est pas seulement par rapport à la personne qui dit, c'est par rapport au dommage qui est fait à ceux sur qui on parle. Donc plus il y a plus de monde qui écoute, donc la mauvaise impression qu'on va avoir de la personne dont on parle, elle va être plus grande puisqu'il y a plus de gens qui écoutent. Naturellement, au niveau, comment on dit ça, au niveau statistique, si une personne elle entend, elle va diffuser ça à moins de gens que si c'est 10 personnes qui l'entendent. Voilà, donc c'est moins grave si quelqu'un il dit la shonara, s'il n'en parle qu'à une personne, qu'il en parle à tout le monde. Donc, bon, moralité, donc celui qui imprime, par exemple, celui qui imprime ou qui dit à la radio ou dans un journal, lui, c'est carrément, on l'appelle un baal, la shonara. Il y a le gens qui disent la shonara et il y a le baal. Baal, la shonara, c'est celui qui ne peut jamais s'empêcher de dire de la shonara, qui fait une vie que de ça. D'accord? Alors maintenant, quelle question on pose? Tout simplement, il y a des obligations de dire la shonara. Matai tirou, quand est-ce qu'on a permis de dire la shonara? Alors, devant 3 personnes par exemple, ouais. On dit par exemple que God, Mishu Sheo Shoel Aya Ayenim Tsaesh. Quelqu'un, c'est une question que la Midra se pose. Quelqu'un demande où est-ce qu'on peut trouver du feu dans cette ville? Cherche du feu, non? À l'époque, il n'y avait pas d'allumettes, il n'y avait pas de briquet, donc les gens ils cherchaient un endroit où il y avait du feu. Ve'alo Meshiv Sham Timsaïn. Et lui répond, là-bas tu vas trouver du feu. Alors, là-bas tu vas trouver du feu, pourquoi? Parce que tout le temps, chez là-bas, on cuit du poisson et de la viande. Donc, ça, c'est la shonara, ce qui veut dire par là que c'est des grands C'est des gens qui profitent beaucoup du monde, donc ils sont tout le temps en train de cuisiner. Donc il ne faut pas dire, tu peux dire oui, il y a du feu là-bas, mais tu n'as pas besoin de dire pourquoi il y a du feu là-bas. D'accord ? Il ne faut pas rajouter il ne faut pas rajouter la raison qui fait que pourquoi il y a du feu là-bas. D'accord ? Maintenant, si maintenant c'est une grande famille, ou une yeshiva, ou un endroit où il y a beaucoup, on est obligé de cuisiner beaucoup, hein, ou alors une fête, alors on peut dire, on y va là-bas parce que de toute façon, ils cuisinent beaucoup. Donc c'est pas la chenara, c'est le fait que c'est un endroit public, quoi, un hôpital, ou une salle de fête, ou une grande maison, ou une yeshiva où on mange. D'accord ? Donc là, donc c'est pour ça que quand on vous pose une question et que on peut tirer de là quelque chose de péjoratif sur la personne, il faut répondre sèchement, sans donner des détails. D'accord ? Ne pas lui dire, ne pas lui répondre, c'est mentir. Je sais pas, on peut trouver à ce temps-là. Je sais pas, un magasin, à quelle heure c'est encore ouvert à cette heure-là, le magasin? Oui, c'est encore ouvert. Ah, mais oui, c'est encore ouvert parce qu'ils aiment l'argent. Tu n'as pas besoin de rajouter ça. Oui, c'est encore ouvert, tu es obligé de dire la vérité, mais tu ne dois pas rajouter une annotation à toi, rendre ta note à toi pour dire que tu sais, ils aiment tellement l'argent que c'est sûr que c'est encore ouvert. Donc tu dois... Si tu rajoutes, ça s'appelle la chenara. Si tu ne dis pas, ça s'appelle mentir. Donc il faut couper la phrase en deux. D'accord ? Ou alors, quelqu'un vous dit, je dois aller au Sheva Brachot de X, vous croyez que c'est encore... oui, ils sont toujours en retard. Vous savez bien comment ils sont toujours en retard. Donc tu peux y aller tranquillement. Ça s'appelle la chenara. Il aurait dit, oui, sûrement, parce que le Khatan et Akala, en général, n'arrivent pas à l'heure. Ça va. Mais dire aux gens, les gens sont toujours en retard. Donc, il faut couper la chose. D'accord ? Donc, si... Donc, même s'il y a trois personnes qui écoutent, ça ne s'appelle pas la chose. Parce que vous avez dit la chose sans rajouter le côté péjoratif qu'il y avait là-dedans. D'accord ? Comme je vous l'ai raconté une fois, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais ce n'est pas grave. Il y avait un grand rave qui avait fait une...
Oui, mais c'est ça nous fait du tort. Quoi ? Ça nous fait perdre notre travail. Pourquoi on dirait pas ?
Quoi, ça vous fait du tort de dire la moitié de la vérité ? Qu'est-ce que vous faites ?
Ben oui. Si on nous prend notre travail, on ne doit pas le dire ?
Non.
Ah bon? Alors on doit rester sans reculer et puis pas foncer comme vous
dites. C'était le Ayom Yom d'hier. Le Ayom Yom d'hier, il disait, ce qu'il a écrit dans la Gemara Sota, il a écrit dans le Rosh Shlomo, il dit, Be'aga Balev Yesichena. Une contrariété dans le cœur, Yesichena. Alors il y a deux explications. Yesichena, c'est-à-dire, il enlèvera de sa tête, il sort midaato, il enlèvera de sa tête. Oh yesichena, il en parlera à d'autres. Donc il y a deux façons de se débarrasser d'une contrariété du cœur. Soit de la faire partir de la tête, soit au contraire d'en parler à d'autres. C'est Marcellet qui rajoute que c'est d'autres. D'autres, c'est pas d'autres. Stam, c'est pas des gens stam, on parle pour parler. D'autres, c'est d'ailleurs des gens qui peuvent comprendre et vous aider dans votre...
Mais quand ils sont pas...
Voilà, c'est tout. C'est pas évident, hein. Alors, donc, on parle pas. Si on trouve pas quelqu'un disponible, on raconte pas sa vie aux autres.
Donc, on ne peut rien raconter, même
aux amis. Voilà, exactement. Sinon, ça s'appelle la chenara. Dans ce cas, aux amis, il faut jamais raconter. Il faut raconter aux... à un étranger, à un rave, à un psychologue, à un policier, mais pas aux amis. Sinon, ça prouve que vous avez envie de vous dégager.
Alors, comment se dégager ?
Je vous dis, si c'est pas trop, si c'est pas trop grand, alors on n'en parle à personne. On l'évacue de son esprit. Ou alors on n'en parle qu'à quelqu'un qui va pouvoir le décortiquer pour sortir quelque chose, exactement. Voilà. Donc il y avait une histoire d'un monsieur, un rave, qui avait fait une grande dracha. Et dans la dracha, il avait dit que Yitzhak Avinu, c'était une grosse erreur qu'il avait faite de vouloir bénir Esav. Il avait mal compris, il avait mal vu, tatati tatata. Et donc, il a dit la shonara, quoi, sur Yitzhak. Alors, comme c'était après la guerre des six jours, le rabbi a parlé de ça, il a dit, heureusement qu'on a récupéré la tombe de Yitzhak, parce que, comme il a eu la shonara sur lui, devant 10 personnes, au moins, donc il faut qu'il amène à Minyan, et qu'il s'excuse sur la tombe d'Yitzhak d'avoir dit la shonara sur lui. Donc, si on a dit la shonara sur quelqu'un en public, il faut s'excuser, même s'il n'est pas là, devant un minyan. Même si ce n'est pas les mêmes gens d'ailleurs. Comme il a parlé publiquement, il faut s'excuser publiquement.
Comment on fait?
Ben, comme je viens de vous dire. Quoi, on peut pas plus clair? Vous avez parlé devant 10 personnes, ben vous parlerez devant 10 autres personnes pour dire pardon à X d'avoir dit ça. D'accord? Alors, qu'il y ait 10 personnes, pas forcément les mêmes, qui entendent de la même façon que les 10 personnes premières. Elles ont probablement diffusé ce message depuis le temps que vous avez dit la shonara. Les 10 nouvelles personnes, elles vont dire encore un nouveau shonara. Ah, tu sais que X s'est excusé pour ça. Donc, ça va faire le même effet de diffusion. Non, c'est sûr qu'à lui, il faut lui parler. Mais le plus important, c'est le dégât qui a été causé par la diffusion. Maintenant, je vous donne un bon conseil. Si vous voulez que une chose se sache, quand vous voulez qu'une chose se sache, prenez une personne, et vous lui dites, je vais te dire quelque chose, mais surtout ne répète pas. Comme ça, vous êtes tranquille, que ça va être dans les 2 heures qui viennent, jusqu'aux Antilles, ils vont le savoir. Alors, mais il faut cibler. Il faut pas avoir affaire à quelqu'un qui ne sait pas se taire. Si c'est quelqu'un qui sait se taire, effectivement, quand vous dites quelque chose, même si vous me le dites de le dire, je ne le dirai pas quand même, de toute façon. Vous pouvez toujours me dire, sous la torture, je ne parlerai pas. Mais il y a des gens, vous leur dites, vous savez qu'ils ne peuvent pas se retenir. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est parce qu'il faut qu'ils parlent. Alors, au fait, t'as entendu, mais c'est pas par méchanceté, c'est pour meubler la... C'est pas la conversation, c'est une incontinence verbale, ça s'appelle. Bon, allez, une à la fin de Shabbat, qui est beaucoup plus facile, bien sûr, puisque c'est plus facile de faire Shabbat que de ne pas dire le Shonara.
Par exemple, moi je suis là-bas, au Zrat Nassé, alors je dis, voilà, il faut que je m'excuse pour un truc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Mais non, pas n'importe quelle occasion, vous n'avez pas... entre Mincha et Mouna, s'il vous plaît, je voulais vous dire quelque chose. Vous attendez une occasion, une réunion, un repas, une occasion où il y a 10 personnes qui sont assises à vous écouter. Vous n'avez pas mobilisé 10 personnes pour...
Ah bon?
Ben non, mais j'ai envie de dire ce qui est...
Ah oui, c'est plus simple.
Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, d'accord. Ben voilà, l'autre fois j'ai dit sur X truc, je regrette d'avoir dit ça.
Ou femme ou homme?
Homme ou femme, ouais. Ne vous inquiétez pas, les femmes aussi, elles ont, bon, Hachem, une grande propension à la relâchement. Il n'y a pas que les hommes. C'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, donc les femmes, elles la font très bien.
Oui, mais d'enlever le...
Ouais, pareil, ouais. Alakha Yomit, une Erev Shabbat, il y a écrit dans la Gemara, que on a le droit de voyager jusqu'à Tsor, jusqu'à la ville de Tyr. Alors, les gens, à l'époque, quand ils prenaient le bateau, c'était pas pour faire des grands voyages de haute mer. Ils voyageaient sur la, ils longeaient la côte, ça veut dire. Donc, ils voyageaient depuis Akko jusqu'à Tyr, et ça met exactement 3h30. Donc, de là, on apprend que tout voyage qui dépasse 3h30 d'après une chita, et, ou alors, 4h40 d'après une autre chita, vous n'avez pas le droit de l'entreprendre avant Shabbat. Bon. Donc si vous savez que vous devez aller quelque part avant Shabbat, si ça va vous prendre en temps, pas dans distance, en temps, d'après la chita la plus extrême, 3h, la moins extrême, 4h30, vous ne pouvez pas y aller. D'accord ? Vous entendez que il y a des embouteillages, ce que je sais, d'accord, il faut donc. Avant Shabbat, c'est-à-dire. Avant Shabbat, si c'est un voyage qui dépasse 3h ou 4 heures de temps, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez le faire, il faut le faire bien avant. D'accord ? Maintenant, si c'est des voyages qui sont pas sûrs, comme les voyages en avion, par exemple, peut-être qu'il y aura une fausse escale ou une panne, etc. Ça, de toute évidence, il ne faut jamais les entreprendre. Un vendredi, même quand le jour tombe tard. De peur qu'on se retrouve en Turquie ou en Tchécoslovaquie pour le Shabbat. Donc, quelqu'un qui voyage, qui vérifie à l'agence, qu'effectivement l'avion soit au plus tard dans la nuit du jeudi. Et sûrement pas dans la journée du vendredi, même si on lui dit que c'est du direct et que Shabbat rentre à 10h30 à Anvers. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que on parle d'un cas normal, de Akko jusqu'à Tsour, c'était un bateau. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de voyous, il n'y avait pas de pirates de l'eau. Donc, c'était un temps normal. Si vous allez, par exemple, d'ici à Tel Aviv, vous savez que c'est bouché entre telle heure et telle heure. Hein, donc, vous évaluez qu'il faut tant de temps, mais vous ne devez pas faire ce voyage à moins de 3h, ça veut dire, moins de 3h de voyage. Donc vous prenez vos dispositions, vous ne dites pas en chrono, je mets 1 heure pour aller à Tel Aviv, donc si le Shabbat rentre à 5h, je pars à 4h. Non, parce que il faut disposer de 3h. D'accord?
Mais excusez-moi pour la première. Mais en tout cas, on n'est pas un frère dans une
fille
là, on a pourquoi comme ça?
Vous parlez maintenant? Mais non, la chenara, c'est un problème, un dommage entre les êtres humains. Comme ça a été fait entre les êtres humains, il faut le réparer avec les êtres humains. Ben oui, si on le disait la chenara dans cette fila, ce serait pas trop grave. On parlait tout seul.
Non, pas je veux dire la chenara, mais on parle parce qu'on voit un peu plus de vérité que ce qui se passe, quoi.
La chenara, c'est toujours une vérité, oui. C'est des vérités qui ne sont pas bonnes à dire.
Oui, bon, d'accord.
C'est pour ça que c'est une vérité que ça enlève le dîme du Hachanara. C'est au contraire, c'est le Hachanara parce que c'est ce que vous dites la vérité.
Oui, d'accord, mais dans une fille-là,
Il n'y a aucun rapport avec le bon Dieu là-dedans.
Ah bon, c'est aucun rapport?
Aucun rapport. Vous pouvez prier pour que Dieu vous aide à ne pas dire l'Hachanara.
C'est vrai que j'avais beaucoup de choses que j'ai aucun rapport avec la fille.
Allez! Korach! Par chaque Korach. Où sont passées toutes les dames? Il n'y a pas de. C'est pas le jour de marché, le mercredi soir. Bon. L'homme est chané. Donc on est sur chassidoute.org, 9h-20. Dans Korach, vous connaissez toute la Mishnah dans les Pirkei Avot, qui dit que
Il y a 10 choses que Dieu a créées avant le coucher du soleil du vendredi, de la création. Quand ? Une des 10 choses, c'est le trou qui s'est ouvert pour engloutir Korach. Korach. Non, pas pour la date. Korach. Il y a eu plusieurs jugements là-dedans, des gens qui ont été brûlés, des gens qui ont été engloutis, des gens qui ont été sûrement dans l'épidémie de qu'il y a eu par la suite. Donc il y a eu plusieurs dynimes. Korach, sa famille et ses biens ont été engloutis. Donc ça fait partie des 10 choses qui ont été créées avant le coucher du soleil, de la création du monde. Pourquoi ça a été créé à ce moment-là? Pourquoi ça n'a pas été créé franchement? Franchement, avant la, au moment de la création, pourquoi Dieu a attendu le coucher du soleil? C'est un moment où il ne créait plus, en fait. Tout avait déjà été créé. L'homme a été fini de créer, tout était terminé, quoi. Pourquoi s'y prendre à la dernière minute? Ça, c'est une question. Deuxième question. Korach, le Midrash vous dit que ce qui l'a motivé, ce qu'il a vu en paroi HaKodesh, il a vu que descendraient de lui les Lévim du temple. Les 24 gardes de Lévim qui allaient servir pendant le premier temple descendraient de lui. Et surtout que Shmuel Hanavi descendrait de lui. Le grand prophète Shmuel, qui est comparé à Moshe et à Aaron réunis, descendrait de lui. Donc, il s'est dit, ce que le Midrash vous dit, que, étant donné que j'ai une telle descendance, donc il ne peut rien m'arriver, puisque je suis garanti d'avoir des gens illustres qui vont sortir de moi, donc quoi que je vais faire, ça va marcher, puisque je vois déjà dans le destin de la famille que Shmuel Hanavi va descendre de moi, et les 24 heures. Et on ne comprend pas. Si effectivement il a eu, pas par sorcellerie, mais par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. Chacun crée maintenant une nouvelle création pour exterminer Korach. Vous avez dit, cher Abel. Ivra Hashem rien. Que Dieu fasse une nouvelle création pour engloutir Korach. Plus. Parce que c'est obligé que ce soit là. Question qui vient, donc les arbres, les étoiles, les animaux, les escargots. Tout ça fait partie de l'ensemble de la création, indispensable pour la création. Que si vous enlevez une chose de la création, tout est bouleversé. C'est une chaîne, voilà. Comme en Australie, quand ils ont voulu se débarrasser des... Il y avait trop de serpents. Alors ils ont tué les serpents. Et quand ils ont tué les serpents, ils se sont rendus compte qu'il y avait une invasion de rats. Parce qu'en réalité, les serpents attrapaient les rats. Donc quand tu touches à quelque chose dans la création, sache que tu touches à quelque chose qui est nécessaire
Et en vérité, les kangourous s'arrangeaient pour manger des serpents, donc en vérité, t'as pas besoin de tuer les serpents. Laisse faire la nature. Donc chaque détail de la nature, c'est une chaîne et qui fait un équilibre indispensable. Et si tu touches à une nekuda, un point, ben tu touches à tout. Donc, tout ce que Dieu a créé, c'est utile. Maintenant, les 10 choses dont on parle dans la Mishnah là-bas, c'est des choses qui ne sont pas indispensables. Par exemple, on a cité la fameuse, la bouche de l'ânesse qui a parlé. Qu'est-ce qui se passe dans Bilam? C'est que quand Bilam veut aller maudire les Juifs, Elohim vient le voir et il lui dit, n'y va pas. Il n'y a pas besoin que tu les bénisses, il n'y a pas besoin que tu les maudisses. L'homme d'Ukcher et l'homme d'Ukcher. On veut dire tes piqûres, ni tes. Ce qu'on dit à la guêpe, d'accord? Ni ta piqûre, ni ton miel. Comme on dit, chef Sheket. Reste tranquille, on t'a rien demandé. Donc, puisque l'être humain, juif ou goy, a le libre arbitre, d'accord? Avant que Chas Shalom lui enlève le libre arbitre par son mauvais comportement, avant qu'il n'ait plus libre-arbitre comme Pharaon ou Nakhon, ou Nabuchadnezzar, ou ce que je sais moi, les gens du gouvernement, etc. Tous les gens qui se comportent mal, ils finissent par perdre leur libre-arbitre. Comme les tzadikim, ils finissent par perdre leur libre-arbitre, ils ne peuvent plus faire que du bien. Donc dans la vie d'un homme, quand quelqu'un fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, eh ben on le laisse. On s'amuse avec lui, donc il perd son libre-arbitre et Dieu se joue avec lui. Et quand quelqu'un fait beaucoup de bien, eh ben on lui enlève aussi le libre-arbitre, pour qu'il ne fasse que du bien. Donc c'est zèle ou matzé, c'est l'un en face de l'autre. Donc monsieur Bilam, il avait donc le libre-arbitre. Quand Dieu vient le voir, il dit, ne va pas les maudire, ne va pas les bénir, on t'a rien demandé, donc il peut encore faire marche arrière. Il peut ne pas y aller. Maintenant, quand il insiste, ce que la Gemara dit là-bas, quand le chemin dans lequel quelqu'un veut aller, on l'aide. On l'aide. Si quelqu'un veut aller dans un bon chemin, on va l'aider à y aller. Quand il veut aller dans un mauvais chemin, on va l'aider aussi. Et ne pas se dire, puisque je suis aidé, c'est que c'est bien. Non, tu peux être aidé, parce que c'est pas bien justement. Un voleur, par exemple. Il y a des voleurs, par exemple, il y avait une fois un voleur qui allait faire un casse dans une banque, et en rentrant, en allant faire le casse, il s'est cassé la jambe. Alors tous ses copains ont dit, ah, tu es un nul, tu es un câble. Au contraire, c'est que Dieu l'a aimé. Pour éviter qu'il vole et qu'il se fasse attraper, etc., etc., il a cassé la jambe. Donc, si quelqu'un n'est pas aidé dans ce qu'il fait, c'est justement des fois bon signe. Alors, si quelqu'un fait une bêtise et qu'il voit que ça marche, il va dire, donc, ça veut dire que c'est ce que Dieu le veut, puisque dans ma bêtise, je suis aidé. Justement, si tu es aidé, c'est que justement, tu veux faire du mal, on va t'aider à le faire. Donc, on voit bien que jusqu'à un certain point, les gens ont le libre arbitre, et donc Bilam avait le libre arbitre. Donc, si on avait créé la bouche de l'ânesse en pleine journée, parmi les choses de la création, ça veut dire que cette bouche de l'ânesse qui parle, ça aurait été indispensable. Alors on t'a dit, non! Si Bilam se comporte bien, alors, comme toute chose facultative, elle restera au musée des souvenirs. Si Bilam se comporte mal, on la sort du placard et on s'en sert contre lui. C'est-à-dire les 10 choses qui ont été créées à Ben Hashmashot, c'est 10 choses qui dépendent du libre arbitre des êtres humains. Si les êtres humains sont méritants ou pas, c'est ça qui va décider de l'utilité de ces choses-là. Et c'est pour t'apprendre, en fait. Il y a besoin dans un cas où, mais pas tout le temps. Pas comme les cafards et les chiens et les requins. Ça, on a tout le temps besoin de ces choses-là sur Terre. Sinon, on casse l'équilibre. Donc la même chose pour le trou dans lequel Moshe Rabbeinu a prié que il a demandé à Dieu de créer quelque chose pour engloutir Korah. Cette créature qu'il a demandé de créer, en réalité, c'était ce fameux précipice qui a été préparé depuis le crépuscule du Réveil Shabbat. Ça veut dire que si Korach avait fait marche arrière, si Korach avait fait marche arrière, ça n'aurait pas servi. Pas comme les gens qui disent, mais c'est obligé que Korach arrive faute et que Bilam maudit, c'est que... puis c'est écrit dans la Mishnah. Non, la Mishnah te dit que ça a été créé avant Menach Mashor. Exprès pour te dire que c'est facultatif. Le juif, c'est un chat d'amour, collègue de Pilat. Elle a cassé ce xéra de cuir. Et elle va donner le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le contraire de l'orgueil de Korach. Elle avait l'humilité, justement. Elle avait l'humilité qui lui a donné tout. Qui lui a ouvert toutes les portes. Et donc, on voit à quel point cette notion d'orgueil, il faut la travailler, cette notion d'humilité, il faut la cultiver chez soi, parce qu'elle est la porte ouverte à toutes les brachot ou le contraire. Et donc Korach, il avait boire à la Kodesh, il est mort englouti, il n'avait pas compris d'où c'est venu.
Comment
vous vous rendez compte? Alors qu'il aurait pu dire, mais attends, mais c'est écrit, je suis l'Ivné Korach, les profs, le Teïdi, pardon, l'Ivné Korach. C'est écrit, donc il ne peut rien arriver. Je suis bourré de mitzvot, je suis bourré de tzrouyot. Et voilà. Et en plus, Moshe a prié pour ça. Vous vous rendez compte que Moshe a dû prier pour ça, pour casser ce qu'il était. C'est qu'il fallait vraiment qu'il y ait une gravité très, très, très lourde. Sinon, Moshe Rabbeinu, tout le temps, il a prié pour la pitié. La preuve, c'est que pour Datan et Aviram, avec qui Moshe avait un compte depuis l'Égypte, c'est eux qui l'ont trahi à Pharaon. Donc grâce à lui, il lui a lui couper la tête. C'est lui qui lui a cassé les pieds. C'est à eux qui ont lui cassé les pieds. Il a prié pour eux jusqu'à la dernière minute. Donc on voit bien que ce n'était pas personnel chez lui. Alors que Korach, il n'a rien fait. Il n'y a que c'est ce jour-là qu'il a fait. Et c'est même pas Moshe qui s'est adressé. C'était sur Aaron qu'il en avait. On voit que Datan Aviram, il a prié jusqu'à la dernière seconde. Alors qu'il pouvait dire, ouf, enfin je vais me débarrasser d'eux. Avec ce que j'ai depuis 40 ans, la dent que j'ai contre eux, c'est des capots, c'est des gens qui ont été le mouchardé à Pharaon, etc. Donc c'était des gens odieux. Alors maintenant, avec eux, ils prient jusqu'au bout pour qu'ils ne soient pas exterminés. Alors que Korach, il prie que la terre s'ouvre pour lui, vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'il représentait la dissension.
Comment définissez-vous?
Sur un pied à 9h15, mais je vous dépise. Toute la Torah, tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est pour apprendre l'humilité. Le Tania du lundi, c'est apprendre l'humilité. Tous les livres de Midrash, du Moussa, de la Torah, tout ce qu'on apprend depuis Bereshit, c'est pour arriver à l'humilité. Est-ce que vous avez compris la gravité de l'histoire de Korach? Et c'est pour ça que ça nous donne un enseignement très très grand. Qu'une personne peut avoir des raisons d'être confiant, et que pitom une chose s'écroule parce que justement il a touché à un nekouda de la dissension. Donc il vaut mieux avoir moins de scrouillot et jouer et faire attention à l'essentiel. Ne pas tout gâcher à cause de son orgueil. Ouais, mais à l'envers, c'est quelqu'un qui est très humble, même s'il n'a aucune supériorité dans ce monde, il n'est ni riche, ni beau, ni intelligent, ni il a eu des bonnes cartes à la vie au départ. Ben, grâce à son humilité, il va s'apporter toutes les bénédictions. Et il aura des descendants illustres. Même si lui, apparemment, était quelqu'un de tout à fait monsieur tout le monde.
C'est un travail sur soi qui est fait.
Ben oui.
C'est ça, parce que je parlais d'annuler son orgueil.
Ben, c'est le travail de base. Toute la Torah est basée là-dessus. Toute la Torah est basée là-dessus. Surtout que le... Comme dit le rabbi précédent, il y a deux sortes de gens orgueilleux. Il y a les gens orgueilleux, mais qui en vérité auraient des raisons d'être orgueilleux. Hein? Quelqu'un qui est riche ou intelligent, etc. Lui, on ne comprend pas qu'il puisse être orgueilleux, puisqu'il a de quoi. Il a une supériorité sur les autres. Donc, quelqu'un qui est riche par rapport à quelqu'un qui est pauvre, il peut se dire, oh, moi je suis quelqu'un, je suis riche. Ou moi je suis intelligent, toi tu ne l'es pas. Moi je suis beau, toi tu ne l'es pas. Gara, qui n'est pas permise, mais qui est au moins justifiée, qui est au moins compréhensible. D'accord ? Mais le rabbi précédent, il dit, dans nos générations à nous, il y a en tout cas des gens qui ont la Gara, les gens les plus bas, les Gara, c'est justement les gens qui n'ont rien de tout ça. C'est ça qui est plus grave. Et le comble de l'humilité, c'est Moshe Rabbeinu, parce qu'il avait tout ça, et malgré tout, il ne considérait pas qu'il était quelqu'un. Donc, au moins qu'on soit pas de la catégorie de la fin de la galoute, des gens qui n'ont rien et qui la ramènent, comme on dit. Et qui osent la ramener. Grand. Au moins, si tu es riche, si tu as beaucoup de qualités, c'est vrai, il faut que tu travailles là-dessus, mais même si tu es fier de ça, on ne peut pas tellement t'en vouloir, parce qu'effectivement, tu es... Par contre, non, mais même le fait d'être riche, qu'on le veuille ou non, être riche, c'est une qualité spéciale. Donc, ça vient de, à l'intérieur de l'âme, ça vient d'une ouverture de l'âme. L'âme qui est grande ouverte, elle rend riche. Il y en a, ça passe sur l'intelligence, mais il y en a, ça passe sur la poche. Ce qui est très, 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 très utile. Ah, bien, si tu es dans ta carte, tu vas présent, c'est encore mieux, comme vous dites. Donc, ça veut dire que le travail est justement d'être humble, parce que c'est la porte à toutes les bénédictions. Et le contraire est... peut fermer même le destin, quoi. Même ce qui était garanti à l'avance. Est-ce que vous avez des questions?
Pourquoi les fils?
Parce qu'ils ont... Ils avaient libre arbitre tous, donc ils ont eu la présence d'esprit de... Ouais. Et une autre remarque qui vous dérangera peut-être, mais si vous remarquez dans cette paracha, on parle de femmes, justement. Ouais. Korach, il a continué la marloquette à cause de sa femme, et On Ben Pelet, il s'est rétracté grâce à sa femme. Donc on voit, comme je le dis toujours, que ce ne sont pas les hommes qui font marcher les choses, c'est la femme qui est derrière. Toujours une femme derrière.
Où elle aide
à servir Dieu, où elle enfonce à lui désobéir. Et donc, il ne faut pas dire « Ah, celui-là, il est comme ça. Ah, celui-là, il est comme ça. » Si c'est un grand sadique, c'est parce que sa femme, derrière, elle lui a dit « Arrête de te la raconter, tu n'es pas un grand sadique. » Ça, c'est un grand sadique. Et si c'est un grand rachat ou un grand orgueilleux, c'est parce que sa femme, derrière, elle dit « Ouais, j'espère, pourquoi ?» C'est pour ça que les Pirkei Avot, encore une fois, ils disent «
Altarbe Sicha Imaisha, ne parle pas trop avec ta femme, parce que justement, on aurait tendance, comme on l'a dit au début de, sur les lois du Lashon Hara, que quand on a une contrariété, on parlait à sa femme. Voilà, donc ça, il a un problème relationnel avec son patron, avec tel individu, surtout pas à sa femme. Et si à moins que sa femme soit comme la femme de Hon Ben Pelet, qu'elle va tout lui renverser pour lui dire maintenant il faut être optimiste, il ne faut pas voir les mauvaises choses et puis il faut prendre les choses du bon côté, tatatata. Mais si c'est une femme qui dit quoi, ah bon, tu vas voir, te laisse pas faire, ouais, jusqu'à quand tu vas être le dernier, le deuxième, le premier, Poulidor, Shimon Peres, arrêtez d'être le deuxième, il faut que tu sois le premier. Tout dépend de la femme. Donc ne croyez pas que votre rôle est un rôle anodin. Il est un rôle cardinal, comme disait la femme, rôle cardinal. C'est grâce à la femme qui est derrière. C'est-à-dire que la femme, elle grossit ou elle amoindrit les problèmes. C'est quand même pas par hasard que le Midrash met l'accent sur la femme de quoi dont on ne voit pas la trace dans la paracha, ni la femme de Pérez, on ne voit pas la trace. C'est le Midrash qui nous dit ça. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la femme n'est pas forcément un bon voisin. C'est pas forcément raconter à sa femme tout ce qu'on voit. Hein, pardon? Ah, sa mère encore pire. La mère c'est encore pire, ce qu'elle veut dire. Comment tu n'as pas été le président de la... Vous avez compris? Ni à sa femme, ni à sa fille, ni à sa sœur, ni à sa mère. Voilà.
Alors quoi il faut...
Ah, ce que je sais, moi, sa concierge, vous ne voulez pas aller avec femme, il
ben,
parlez. Voilà. Donc, Bekitsu, la paracha de Korah, c'est la paracha du destin et du libre-arbitre. Donc, il faut faire très attention. Et vous êtes comme la femme de Hon Ben Pelet ou la femme de Korah? Comment vous êtes? Réfléchissez bien, c'est bien. Eh oui. Alors. Ah, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on n'influence pas les choses. Il faut pas s'imaginer, comme on l'a vu la semaine dernière, n'être rien dans le système. Voilà. Shabbat shalom. Bonne nouvelle. Kodesh Tov, voilà.